France Bleu, dans le rétro l'intégrale, Déborah Grunewald.
Salut à tous, contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans le rétro. Moi c'est Déborah Grunewald et comme chaque semaine, on part pour un voyage spatio-temporel au fil de la carrière et des souvenirs de notre invité. On y parle de ce qui nous ressemble et nous rassemble. Aujourd'hui, nous sommes avec un artiste poétique qui a le don de parler peu pour dire beaucoup. Il a la curiosité en alerte dans ses chansons, souvent avant-gardistes. Il frappe juste avec parfois cette délicate exubérance sans être exhibe. Mon invité aujourd'hui, c'est Étienne Daho. Passé, présent, futur, c'est parti, je vous embarque pour un voyage dans le temps. Bonjour Étienne Daho.
Bonjour Déborah.
Bienvenue sur France Bleu.
Merci pour cet accueil.
Alors il y a quelques mois sortait l'album Tirer la nuit sur les étoiles avec ce single carton en duo avec Vanessa Paradis.
Tirer la nuit sur les étoiles. La nuit nous appartient. Au matin pâle, lis ton destin au mien.
L'idée vous est venue après avoir vu un doc sur Frank Sinatra et Ava Gardner qui sont partis dans le désert complètement bourrés, tirés sur les étoiles avec un revolver. Ava Gardner disait « Une actrice ne s'appartient plus ». Elle appartient à tous ceux qui la contemplent. Est-ce qu'on pourrait en dire de même des artistes en général et de vous, par exemple ?
C'est différent. C'est une autre époque. C'est une autre manière aussi de regarder les femmes. Et il y a une manière très différente de regarder les hommes. Donc je pense que c'est assez différent. Parce que la femme est supposée avoir la plastique parfaite.
Encore aujourd'hui ?
Oui, encore aujourd'hui.
L'amour ne vaut pas d'être vécu si on ne fait pas des choses folles. C'est ce que vous dites. En amour, il faut qu'il y ait un peu de folie.
Oui.
Sinon, l'amour meurt.
Je ne sais pas s'il meurt, mais ça fait partie, c'est la grande aventure d'être amoureux. Ça vous donne envie de faire des choses extravagantes pour plaire à l'autre.
Vous parlez aussi souvent de danger dans vos chansons. Le danger, il y a une part assez excitante quand on est amoureux, mais ça peut être flippant aussi.
Je préfère en tout cas ce genre de flip.
Sérieusement ?
L'ennui.
Ouais, opposé à l'ennui, mais quand même, le fait d'être sans arrêt dans une relation en danger, c'est stressant, c'est angoissant.
C'est pas du danger et de l'angoisse, c'est juste que l'autre doit rester un challenge en fait, une énigme, quelqu'un qu'on a envie de découvrir. J'ai envie de rester sur cette espèce d'état où l'autre ne vous appartiendra jamais, ça devrait rester comme ça.
Donc le mariage, tous ces trucs-là en fait... C'est une forme d'appartenance, quoi.
C'est une formalité, il y a d'autres types de mariages.
Sur l'album Étienne Daho, il y a ce titre.
Je reviens te chercher et dans un commun élan, nous sommes attirés comme le serait deux aimants.
Comme deux aimants, c'est le titre de la chanson. Les aimants s'attirent, les amants. S'attire aussi. Vous êtes plutôt de ceux qui pensent que les opposés s'attirent ou qui s'assemblent se ressemblent ?
Qui se ressemblent s'assemblent plutôt dans l'amitié. Ouais. Enfin, j'ai l'impression de dire des choses définitives comme ça. Je ne suis pas du tout un spécialiste du sujet. Hein.
Spécialiste de l'âme humaine. On le ressent dans vos chansons.
Ça me passionne. Donc j'essaie d'écrire dessus, mais je suis très loin d'avoir cerné le sujet, hein, vraiment.
Il faut une vie pour cerner le sujet, hein, probablement.
Il faut une vie pour cerner le sujet, puis il faut même des vies et des histoires.
Et vous en avez eu des vies et des histoires ?
Oui, enfin, j'ai eu des belles histoires. Ouais, j'en ai toujours. Des belles histoires intenses, en tout cas. Mmh. Pas beaucoup, mais très fortes.
Il y a ce titre.
Lorsque ta vie ne semblera plus t'appartenir, que tu chercheras à t'enfuir, te reconstruire, ouvre grand les bras, gonfle ta poitrine et respire.
C'est drôle parce qu'en fait, quand on écoute les chansons à la radio, là tout d'un coup ça devient réel quoi. On passe tellement de temps à écrire, à changer une virgule, à passer du temps en studio, à changer le son d'un coup de cymbale, dont tout le monde se fout, que personne n'entendra jamais. Et puis d'un coup ça passe à la radio et c'est réel.
Et ça fait quoi alors du coup ?
Bah c'est bien.
C'est galvanisant.
Oui, c'est bien. Et puis tout d'un coup, voilà, je trouve que ça sonne bien et ça fait vraiment plaisir.
Mais ces chansons, vous les avez entendues quand même à la radio aussi, non ?
Pas beaucoup, en fait. Une fois que l'album est sorti, c'est fini, quoi.
Alors ce titre, Respire, c'est sur les années Covid, joué sur le piano de John Lennon. C'était dans les studios d'Abbey Road. Vous y êtes déjà allé. Quand on est dans un endroit mythique comme celui-là, est-ce qu'on sent l'âme des Beatles ?
Je ne suis pas fasciné par les Beatles. Ça a toujours été le grand truc. C'est comme quand on dit « je n'aime pas voyager ». Tout le monde vous regarde comme si vous étiez un fou. C'est plutôt les Beach Boys, c'est plutôt le Velvet Underground.
On va le découvrir au cours de ce voyage.
Et pour moi, vraiment à Beyrouth, c'était plutôt lié au Pink Floyd, à Syd Barrett, qui est le premier leader de Pink Floyd. Et je suis très ému à chaque fois de me retrouver dans les studios où il a enregistré.
Justement, est-ce qu'on sent cette atmosphère?
Ah oui, moi je sens les fantômes partout.
Il y a un truc qui se passe, c'est ce que j'allais
vous
demander.
Dans les endroits, je suis très très sensible aux lieux, plus qu'aux gens d'ailleurs. Les lieux me galvanisent, enfin j'ai l'impression que les lieux ont vraiment absorbé l'énergie des gens et les histoires des gens. Je le ressens.
Et quand c'est des histoires tragiques, avec des personnages qui ont eu des histoires pas forcément faciles, est-ce que les ondes, elles sont différentes? Est-ce que vous êtes dans un autre délire?
Ça me rappelle quelque chose, justement. J'avais rencontré le colocataire de Syd Barrett, avec qui je suis devenu très ami, et qui m'a invité dans l'appartement qu'il a partagé avec Syd Barrett. Donc je me suis retrouvé dans la chambre de Syd Barrett, et vraiment, j'étais hyper ému. Ça m'a retourné, quoi. J'avais l'impression qu'il était là, et que c'est des années qui ont été difficiles pour lui. Et j'avais la sensation vraiment d'absorber son mal-être. Et je suis sorti de là, j'ai écrit trois chansons.
Donc ça vous inspire aussi beaucoup.
Oui, très inspirant.
Il y a la tournée aussi, Étienne Dao, de retour dans les grandes salles. Je sens que ça va claquer sur scène. Je me plante ou pas? En même temps, vous allez dire non, vous n'allez pas me dire non.
Non, ça va claquer, c'est une grande fête.
Ça va claquer.
Une tournée comme celle-là, ça se prépare longtemps à l'avance, donc ça fait des mois que je travaille dessus, sur le visuel, sur les réarrangements des chansons, sur comment on va présenter les choses, que ce soit vraiment une belle fête, un peu différente des fêtes précédentes, mais c'est passionnant, quoi.
Il y a une appréhension encore aujourd'hui?
Oui, parce que, enfin, c'est pas une appréhension, c'est l'envie d'être à la hauteur de ce qu'on peut attendre de moi.
Vous avez peur de pas être à la hauteur? De décevoir?
On a toujours peur de ça, de pas être aussi bien que ce que les gens attendent. Oui, c'est vrai. Et puis en même temps, j'ai une espèce de certitude comme ça. Donc c'est un peu mélangé.
Tirer la nuit sur les étoiles, un album hypnotique, électrique et cinématographique où la passion amoureuse est à la fois ensorcelante et dévorante. On va s'écouter Boyfriend. Je crois que le single est sorti le jour de la Saint-Valentin.
Oui.
Vous jouez le jeu de la Saint-Valentin, vous, ou c'est pas du tout votre truc? C'est une fête commerciale, c'est où il y a une symbolique quand même?
C'est une fête commerciale que je trouve un peu symbolique quand on a la bonne personne en face de soi.
La fête des amoureux. Étienne Dao, on s'écoute tout de suite Boyfriend sur France Bleu et on revient pour notre voyage dans le temps. À tout de suite.
France Bleu remonte le temps, c'est dans le rétro.
Allez, c'est parti, on démarre notre voyage dans le temps. Vous naissez à Oran, en Algérie. Votre père Étienne est militaire, votre maman Lucie est mère au foyer. À 4 ans, votre père vient au Cap Falcon, il vous serre très fort dans ses bras, ne dit rien et part. Il paraîtrait que l'abandon, c'est une des 5 blessures de l'âme. Je ne sais pas si vous les connaissez, les 4 autres.
Non,
alors,
dites-moi.
Il y a le rejet, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Comment on guérit de la blessure d'abandon et est-ce qu'on en guérit finalement?
C'est une très bonne question. Ça demande un travail très long. Toute une vie, mais je pense que tout le monde, à un moment donné, a les 5 blessures. On est tous confrontés à ça pour grandir et pour se forger une carapace.
Elle est essentielle, cette carapace?
Oui, je pense. Je pense que c'est bien de se protéger. Enfin, de savoir se protéger, en tout cas, des gens qui peuvent être menaçants ou blessants.
Après, avec le temps, on peut se dire, c'est tout, ça glisse, c'est pas grave, ça m'importe peu, en fait. On a encore besoin de se protéger avec la notoriété que
mais
vous avez.
Moi, je trouve que les années n'émoussent pas cette chose-là, cette sensibilité-là. Je crois qu'on a ça toute sa vie, et heureusement. Ça permet de rester humain. Enfin, à partir du moment où on est totalement détaché, c'est fini. Enfin, je veux dire, on peut devenir un sage. Peut-être que c'est une chose dont on rêve d'être détaché. Moi, je ne sais pas. J'aime bien être traversé par les choses. J'aime bien que la vie soit électrique.
Même si c'est douloureux.
Même si c'est douloureux. Ouais.
On se construit avec l'absence des choses ou des gens et on devient quelqu'un qui fonctionne très bien. Je trouve ça hyper rassurant, c'est ce que vous dites.
C'est vrai. On a tous des manques. Moi, par exemple, avec mes parents, j'en ai eu d'assez complexes, on va dire. En ce qui concerne mon père, j'ai l'impression d'être devenu mon père. Je suis devenu celui qui me protège le mieux. Donc on apprend à vivre avec l'absence et on en fait quelque chose d'autre. Moi, je suis devenu mon père. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, et assez jeune, hein.
Mais c'est fou.
Pas
ce
maintenant,
que vous
dites. Je suis devenu celui qui me protège le mieux, celui qui sait le mieux me protéger.
Mais pourtant, vous parlez de protection, mais il s'est barré quand même. C'est ça qui est paradoxal.
Oui, mais je pense qu'il faut considérer ses parents et leurs erreurs avec l'âge qu'ils avaient, avec ce qu'ils ont vécu, avec leur trajectoire. Donc, il y a un moment, on peut pas passer sa vie à à en vouloir à ses parents. Je veux dire, il faut se détacher de ça et se faire une belle vie, quoi qu'il arrive, avec son bagage bon ou mauvais. Tout le monde a ça. Enfin, je veux dire, tout le monde traverse la vie avec des tas de choses qui sont parfois difficiles à vivre. C'est d'ailleurs le cas de la plupart des gens et de la plupart des situations. Le bonheur, Béa, n'existe pas.
Ça s'appelle le pardon
aussi. Et les gens qui ont eu une enfance absolument choyée, avec des parents aimants et tout ça, ont aussi des frustrations par rapport à leurs parents. Donc il n'y a pas d'enfants ni de parents idéaux et parfaits. Ça n'existe pas.
Mais il faut savoir pardonner alors et accepter que ses parents aient eu une vie et vécu des choses dans époque. Prendre en considération tout ça.
J'ai fait une chanson à un moment pour laquelle j'avais une espèce de rejet à un moment donné, qui s'appelle Boulevard des Capucines, qui est une chanson justement sur le pardon. Alors les gens l'ont prise comme une chanson triste et tout ça. Et quand je me souviens, quand je l'ai chantée sur scène, je voyais des yeux humides. Et vraiment, c'était pas du tout ça que je voulais exprimer. Je voulais exprimer justement que le pardon, c'était la plus belle des choses qui vous permettent de devenir un adulte et de prendre la distance avec ses frustrations. On peut vivre avec tout ça et on peut vivre très bien.
La guerre à Oran en 1962, c'est apprendre à un enfant à se baisser en passant devant les fenêtres et à courir dans la rue. C'est les douilles des échanges de tirs qu'on ramasse dans la cour de récré, c'est les sirènes, les balles sifflantes, les rafales d'armes automatiques, les explosions. C'est des parents qui forment une haie pour cacher les corps mutilés jetés dans les poubelles, les trottoirs barbouillés de sang et de cervelle. Mais les enfants les voient quand même. La guerre, c'est ça. À 4 ans, vous l'avez vécu, mais est-ce qu'on s'en souvient quand on est aussi jeune, malgré la violence?
Ah oui.
On a des images encore.
Bien sûr.
Qui vous ont hanté?
Alors moi, moins que mes grandes sœurs, mais oui. Parce qu'en fait, quand on est petit, on apprend à jouer sous les bombes. À enjamber les cadavres avec la cervelle qui sort comme ça. Ça, j'ai vu ça en rentrant de l'école. C'est un quotidien, donc on apprend à vivre avec ça. C'est longtemps après, on se dit, putain, mais c'était horrible. Et forcément, il en reste des choses. Mais sur le coup, pas du tout.
Il en reste quoi? Il y a des peurs qui restent?
Non, il en reste une fascination absolue pour la vie. Je fais partie d'une génération qui s'est beaucoup défoncée, qui a fait n'importe quoi. J'avais pas mal d'amis qui avaient une vie peut-être un peu moins tourmentée que la mienne et pour qui il y avait un côté romantique à se détruire. Moi, j'avais vraiment une conscience très aiguë de la vie, de ce qu'était la vie. Et ça m'a probablement empêché de me détruire complètement. Parce qu'il y avait vraiment une espèce de truc très romantique. On lisait William Burroughs et que des bouquins comme ça. Enfin, c'était la culture, était que... perdre avait du panache, quoi. C'était une époque comme ça, et je veux dire, tous les adolescents avaient une passion, une fascination pour les héros, les perdants magnifiques.
Les écorchés, l'autodestruction.
Voilà. Je pense que ces épisodes et que mon enfance m'a protégé vraiment de ça, et m'a aidé vraiment à rester debout dans des années où j'aurais pu être pris dans cette espèce de tourbillon qui était aussi lié au succès que j'ai eu quand j'ai commencé, qui était une espèce de truc fou, quoi.
Cette enfance sous les bombes, vous la partagez en musique en 2013.
La mort ce soir frappera aveuglissant, merci. Pour tout comprendre, je suis bien trop petit. Une bien jolie flamme.
C'est drôle d'entendre cette chanson.
Pourquoi drôle ?
C'est une chanson justement sur un épisode...
Ça s'appelle De Jolies Flammes.
De Bien Jolies Flammes, ouais. C'est un épisode où on était dans notre appartement avec ma mère et mes sœurs et il y a des gens qui ont voulu mettre le feu à notre appartement et nous tuer et tout ça. Et ma mère
c'était
était toute
seule. C'était
carrément
on va tuer les Dao, quoi.
Ouais.
C'était vraiment ça.
Ma mère
ça.
Était toute seule pour nous défendre et c'était... Ma mère s'appelle Lucie, c'est pour ça que je dis Lumière, Lucie, enfin, auteur de mes jours, de ma nuit. J'avais pas réentendu cette chanson, ça me fait un drôle d'effet l'écouter.
C'est vrai. Elle vous défendait avec un martinet, je crois, même, dans l'appartement.
Oui, c'était absurde. Enfin, c'était vraiment tellement dérisoire. Je pense qu'elle n'avait pas beaucoup de choix.
Ce titre raconte des choses terribles sur un air léger. Vous dites « J'ai transformé tout ce qui aurait pu être du chaos dans ma vie. Le côté victime, chialeur, c'est tout sauf moi. »
Je déteste.
C'est vrai ?
Ouais.
Chialer, c'est quoi ? C'est une faiblesse ?
Peut-être que j'ai été élevé comme ça. Ne pas se plaindre. Ne pas s'apitoyer. Ne pas trop parler de soi. Il y a une chose comme ça, une espèce de pudeur. Alors, je suis dans une famille qui parle très fort et beaucoup, mais qui est très pudique.
Et vous parliez tout doucement, en plus, justement pour qu'on,
en fait,
pour qu'on vous écoute.
C'était des tablés où tout le monde hurlait. Et donc, tout d'un coup, je disais un truc vraiment à voix basse. Et donc, tout le monde s'arrêtait pour dire « Mais qu'est-ce qu'il a dit ?» Et je me suis dit « Tiens, pas mal, je garde.
» La guerre, Étienne Dao, vous l'évoquez aussi sur votre dernier album. Le chant des idoles, vous faites référence à la guerre en Ukraine.
Des rythmiques hypnotiques.
Dans le chant des idoles, il y a cette phrase « L'histoire est amnésique. L'homme n'apprend pas de ses erreurs, l'histoire se répète. »
J'ai l'impression que ça bégaye un peu. Il y a des guerres, bien sûr, mais on est quand même dans une période qui, malgré tout, même si elle est complexe, il y a ce changement climatique qui est terrifiant. Et puis, il y a des climats qui sont anxiogènes. On est vraiment dans un monde anxiogène, mais quand même, on a quand même tellement de chance.
Comment on arrive à relativiser ? C'est dur aujourd'hui pour beaucoup de relativiser.
Écoutez, je sais pas, on peut aller à l'école, on peut se soigner, on peut se loger, on peut... Il faut arrêter de chouiner, quoi. Il y a des gens qui ont des vies très difficiles, bien entendu. J'en suis conscient. Mais la plupart des gens ont des vies qui sont quand même très confortables.
Il faut peut-être avoir voyagé aussi pour se rendre compte.
On est dans un pays où on peut dire ce qu'on veut, on peut s'exprimer. La liberté, c'est quand même le plus grand des luxes, quoi.
France Bleu, dans le rétro, Déborah Grunewald.
On est toujours en Algérie, destination la station balnéaire Cap Falcon. Nous sommes dans le bar épicerie de vos grands-parents. Il y a là un jukebox. Let's go surfing now. Everybody's learning how. Come on a safari with me. C'est bon quand même, hein. Les Beach Boys.
Ah, les Beach Boys, pour moi, c'est mon père, en fait. Je crois que c'est la seule chose dont je me souviens vraiment de lui, c'est qu'il avait ce disque, hein, j'écoutais en boucle. J'aime aussi les groupes de frères. Je trouve ça émouvant, les Bee Gees, les Jesus et Mary Chain. Enfin, tous les groupes de frères et sœurs, je trouve ça vachement émouvant.
Vous chopez le virus de la musique, vous découvrez les Beach Boys, mais aussi les tubes des yéyés. Le son coule dans vos veines. La musique, ce serait pas obsessionnel chez vous ?
D'après vous.
Mais pourquoi je vous pose cette question ? Parce que je vais rebondir sur votre réponse. Ah. C'est pour ça. L'obsession, ça peut être invivable pour l'entourage.
Oui, mais ça permet d'arriver à quelque chose... qu'on a en tête.
Ouais, mais pour l'entourage, c'est chiant au bout d'un moment.
Si on vous aime, on vous comprend.
On dit que l'obsession...
Enfin, si c'est une obsession avouable, une obsession pour la musique...
C'est une passion, en fait. C'est plus qu'une obsession, finalement.
Oui, c'est une passion. Je veux dire, je vois pas comment j'aurais pu vivre sans ça. Et encore, comment je pourrais vivre sans ça aujourd'hui. C'est une vocation. C'est pas juste, tout d'un coup, tiens, qu'est-ce que je vais faire dans la vie ? Je vais faire la musique. Je n'avais pas d'autre choix que de faire ça, véritablement.
Mais vous y étiez destiné ?
Ah oui.
Ouais, c'était ça.
Destiné.
1964, Algérie, destination l'aéroport de la Seigna à Oran.
Une caravelle qui s'envole, non ?
Bah, on est à l'aéroport. Au mois d'août, vous avez 8 ans, vous partez en France avec tante Francine. En attendant que votre maman vous rejoigne, à l'aéroport, il y a vos tantes Sonia et Rosine, votre grand-mère Jeanne et votre maman Lucie. Vous avez grandi entourée de femmes. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Est-ce qu'il vous a manqué quelque chose ?
Ah non, c'est des femmes fortes.
Fortes.
Hein. C'est pas du tout des victimes. Non, ça m'a permis de connaître mieux et d'aimer mieux les femmes, en fait.
Il y a toujours eu une part de délicatesse, de douceur qu'on attribue plus aux femmes d'ailleurs qu'aux hommes à l'époque. Vous avez toujours assumé cette sensibilité.
Oui, c'est moi. On n'est que ce qu'on est.
Ouais, mais il y en a qui la planquent, il y en a qui se cachent, surtout des hommes, qui veulent pas admettre...
Pas. Enfin, je vois pas où on peut avoir honte de ça. Donc, j'ai pas à le planquer.
Étienne Daho, vous grandissez à Rennes, quartier Maurepas. Votre enfance, votre adolescence, on la découvre dans un magnifique livre dont je voulais parler absolument. C'est A Secret Book de Sylvie Coma. On part maintenant en décembre 77. Vous êtes fan du groupe Les Stinky Toys. Vous avez monté une asso rien que pour les rencontrer, en fait, et vous avez organisé un concert à Rennes. Le soir, c'est la tempête. Impossible pour eux de reprendre la route, pas les moyens de leur payer l'hôtel. Ils viennent squatter chez vous et entre deux clopes, vous lâchez cette phrase. J'écris des chansons. Élie Medeiros du groupe vous dit « Vas-y, tu peux le faire ». C'est cette soirée qui va faire basculer votre vie. À 21 ans, il fallait entendre ces mots pour prendre confiance.
Oui, j'écrivais des chansons depuis que j'avais 14 ans. Je n'osais pas le dire, en fait. J'avais vraiment une honte à dire ça.
Pourquoi ?
Je ne sais pas.
Par rapport à quoi ?
Je ne sais pas.
Parce que l'impression de dire des conneries dans les chansons de...
Non, parce qu'en fait, j'étais aussi peut-être entouré de gens qui étaient très différents de moi. Moi, je pouvais aimer des choses très éclectiques. Si je citais les Beach Boys dans ces années-là, je me faisais mais vraiment trucider, quoi. Ou Françoise Hardy, ou des choses comme ça. Mais j'aimais des tas de choses très différentes. J'avais des amis qui étaient vraiment dans quelque chose d'assez rigide. Vous savez, quand on est ado, on se fait une espèce de petite case comme ça, où on n'aime qu'un certain truc, pour peut-être... avoir l'impression d'être construit par rapport à son entourage. Enfin, je veux dire, une musique vous fait faire partie du groupe, par exemple. Et moi, je me foutais de ça. J'étais un espèce d'électron libre qui passait d'un groupe à l'autre. J'avais pas de groupe d'amis. Ça m'allait très bien.
Les Stinky Toys, c'est une histoire d'amitié, mais avec Elie Medeiros, c'était plus qu'une amitié. Dans vos chansons, vous évoquez aussi l'amitié amoureuse.
On peut le dire, j'étais fou d'elle, hein. C'est plus
ouais.
un secret.
C'était c'est un pour grand ça que amour. Je me permets de le dire, ouais. Oui. Mais c'était une amitié amoureuse aussi. Est-ce que c'est possible, l'amitié amoureuse ?
Ça l'est devenu après. Mais au départ, non, c'était une passion.
Ça veut dire qu'on peut être ami avec une personne qu'on a aimée ?
En ce qui me concerne, à de rares exceptions près, et encore, c'est en train de s'arranger, je suis vraiment resté ami avec toutes les personnes que j'ai aimées.
Pas facile.
J'aime toujours les personnes que j'ai aimées. Voilà. Vraiment.
Donc quand on n'est plus amoureux, l'amitié, elle peut durer, finalement.
Mais oui, c'est une belle chose, je trouvais, de cette transformation. Quand on s'est offert à quelqu'un, il reste toujours plein de belles choses. Évidemment, on ne peut pas avoir la même intimité, parce qu'il y a d'autres gens dans la vie, des personnes avec lesquelles on a été, que ça peut foutre le bordel.
Mais ça peut foutre le bordel, franchement.
À part ça, les sentiments restent quand même. Enfin, ils se modifient, mais ça montre aussi qu'on ne s'est pas trompé. On ne peut pas aimer 1000 personnes dans sa vie. Enfin, je veux dire, vraiment du don de soi.
Est-ce qu'on peut en aimer qu'une ? L'amour de sa vie ?
Je crois que j'ai un amour de ma vie, oui.
Qu'un seul. Un véritable amour, il n'y en a qu'un
pour
dans une vie.
Pour l'instant. Pour l'instant.
Dans le rétro sur France Bleu, Déborah Grunewald.
Après Rennes, vous partez vous installer à Paris. Premier album Mythomane, on est en 81. Et puis 3 ans plus tard, 84, donc sort l'album La Notée. La Notée, double disque d'or avec ce tube.
Week-end à Rome, afin de coincer la bulle dans ta bulle. Poser mon cœur, dans ton bouquin.
On a emballé sur ce titre.
Mais j'espère.
Ah bah, je
j'espère vous avez emballé. J'espère vous avez emballé.
On a emballé, on s'est fait emballer. Week-end à Rome, premier gros succès. Et là, la machine à tube est lancée.
C'est la raison pour laquelle je ne veux plus quitter mon lit. Pour qu'enfin toutes les nuits durent toute la vie. Si tu viens, n'attends pas que je sois tombé pour la
Mais que c'est bon.
Oui, c'est vrai. Et puis quelle chance d'avoir fait toutes ces chansons qui ont fait un lien avec les autres. C'est ça qui est le plus fou.
Mais c'est le but. Quand
c'est ça qui
artiste.
Est dingue, parce qu'on est là en train d'écrire dans sa chambre. On imagine des chansons, on s'imagine jamais que, je sais pas, là ça fait 40 ans ces chansons ou quelque chose comme ça. Et de dire qu'on les écoute encore aujourd'hui, c'est complètement inouï, quoi.
À cette époque, on parle de Daomania. Vous flippez à ce moment-là ? Ça vous dépasse ?
Non, je me suis beaucoup amusé, j'en ai beaucoup profité, hein, soyons clairs. Il faut gérer le truc. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça devienne ça.
Il y a des gens qui dormaient sur votre paillasson, comme Claude François. comme.
Oui, c'est là où vraiment j'ai commencé à trouver que ça ne ressemblait plus du tout à l'idée que je m'étais fait de faire de la musique. Et je suis parti à Londres, et puis voilà, ça a été très bien.
Mais quand on fait de la musique, on a envie quand même d'être adulé, surtout à cette époque-là, avec les groupes qu'on connaît. Il y avait une espèce d'engouement comme ça.
Alors en fait, oui, parce que c'est une énergie extraordinaire d'être dans une salle et d'avoir des gens qui chantent les chansons, qui sont là, etc. Après, quand vous avez des gens en travers de votre paillasson tous les jours, c'est pas la même du tout. Je trouve que c'est mettre les gens dans une situation qui est un peu dégradante. Je n'étais pas à l'aise avec ça, tout simplement.
Comment vous gérez, par exemple, vous rentrez, il y a une nana ou un gars qui est sur le paillasson, qu'est-ce que vous dites? Comment vous faites? C'est super délicat.
Oui, bah je leur dis de rentrer chez eux.
Et ils rentrent?
Pas toujours. Ouais. Non, on peut essayer, parce que il faut aussi comprendre que certaines figures sont rassurantes et dorlotantes. Et peut-être que c'était des gamins qui, tout d'un coup, étaient perdus dans leur vie et que, tout d'un coup, mes chansons... Ou moi-même, je pouvais être une figure rassurante.
C'est
et donc, l'envie de se rapprocher de moi. Donc, je comprends. Jamais jeter quelqu'un. Je ne voulais pas que les gens se retrouvent dans des situations dégradantes pour eux-mêmes.
En 1986, sort l'album Pour nos vies martiennes et Paris ailleurs. Tous les deux disques de platine, carton pour des attractions des astres.
Oh, j'aime tout. Je veux goûter à vous.
Et aussi comme un igloo.
Comme un igloo, farouche et empesé, ultra civilisé, je me tiens bien en surface, mais qui me foudre et qui me prend le pas, se lâcher sans effroi pour le grand nom de soi, je déconne.
Tournée mondiale ensuite, on y retourne, téléportation?
Allez.
Allez, c'est parti. En 1991, vous êtes sur scène, c'est la fin de votre tournée Tour Paris ailleurs. Vous tombez à genoux, le public croit à une mise en scène. Vous êtes usé, épuisé, fatigué, dépression, burn-out. Et il y a un truc de dingue. Non, parce que je veux pas voir que le côté négatif du truc, on va pas plomber l'ambiance.
Non.
Non, le burn-out, vous dites, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée.
C'est vrai. Non, mais c'est une sonnette d'alarme. Je l'ai pris comme un rappel à la réalité. Non, mais je faisais n'importe quoi. J'avais une vie où j'en mets 14 secondes. Je travaillais tout le temps. J'étais tout le temps en tournée, en promo, en studio. Et puis pour compenser la pression de tout ça, pression, dépression, je faisais la fête à outrance. Je faisais n'importe quoi. J'avais besoin de ça, mais d'une manière festive, pas d'une manière triste du tout. Mais juste le corps n'a pas suivi.
Comment on se relève ?
Alors, j'ai toujours dit que c'était le système qui me convenait plus, mais c'était pas le système, c'est mon propre système qui n'était plus convenable. Enfin, tout d'un coup, quand il vous arrive des choses comme ça, si on prend un peu une vue d'hélicoptère, on dit « mais pourquoi ?» Donc, je me suis dit « il y a des choses qui ne conviennent plus dans la manière dont les choses sont en train de se passer. C'était très bien, c'est la première décade un peu prodigieuse, mais là, il faut faire un break, il faut se casser. » Et je suis parti à Londres. Et ça m'a fait le plus grand bien. Parce que tout d'un coup, je suis redevenu un inconnu. J'ai travaillé tous les jours pour faire des chansons. Et j'ai commencé à écrire cet album qui, pour moi, était un espèce de truc un peu monumental, qui était Eden. Et qui est un album dont je suis extrêmement fier. Et voilà, ça m'a permis de faire, à ce jour, mon meilleur album. Donc ce retrait m'a permis de me recentrer, de me remettre dans ce qui était vraiment convenable pour moi, d'avoir la vie que j'avais envie d'avoir. Exactement comme j'avais envie de la vivre, à savoir peut-être un peu plus dans l'ombre, mais de faire un peu plus de musique, un peu moins de fêtes.
Mais on n'a pas peur de replonger par moments quand on sent justement qu'on bascule dans le succès, parce que finalement le succès il est là depuis des années maintenant. On n'a pas peur des fois de franchir la limite.
Il n'y a pas de bouquin pour apprendre ce que c'est, comment ça marche. Il n'y a personne qui vous dit c'est comme ci, c'est comme ça. Et puis chaque cas et chaque carrière est particulière. En fait, c'est grisant, mais personne ne vous protège d'une certaine manière. Quand on est dans une espèce d'ascension, on embarque tout le monde avec soi. Tout le monde a envie que ça marche. Enfin, tout le monde récupère un petit bout de cette lumière.
Et justement, c'est pas à l'entourage peut-être d'être un peu les garde-fous de tout ça ?
Pas du tout.
Ça peut mettre le contraire. C'est-à-dire qu'on peut être entouré en plus de gens.
C'est là où on revient à ce que je disais tout à l'heure, à réaliser qu'on est la personne qui sait le mieux vous protéger. Et donc, j'ai été mon plus grand protecteur. Je me suis dit stop.
Et le plus grand destructeur aussi, alors.
C'était pas de la destruction, hein. Vraiment pas du tout. C'est-à-dire que j'avais la chance que ça marche très très bien. Donc c'était génial. Et puis d'un autre côté, ben, j'étais fêté.
Adulé.
Donc voilà, tout ça a été vraiment très bien. Je ne vais pas du tout me plaindre de ça. C'est juste ce que ça a occasionné physiquement. C'était ça le problème.
France Bleu, dans le rétro.
En 2000 sort l'album Corps et Armes. Il y aura ensuite Réévolution en 2003.
Puisque l'avenir dépend de notre foi. d'être irrépressible. Envie de vivre le futur sera bien plus que parfait. Oh 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 oh, debout et le poing levé.
Au fil des paroles, vous rêvez d'un monde meilleur. C'était il y a 20 ans. Vous qui êtes sensible à l'air du temps, comment vous vous sentez dans la société d'aujourd'hui ?
C'est drôle parce que cette chanson, elle pourrait vraiment complètement coller à cette période. D'ailleurs, pendant l'épisode des Gilets jaunes, j'ai vu une grande pancarte Révolution, justement. J'ai pris la photo et je l'ai gardée.
Mais c'est fou quand même de se dire que c'était il y a 20 ans.
Non, mais parce qu'il y a les germes de tout ça depuis longtemps, en fait. Il y a on a changé de monde, en fait. Et dans ce changement de monde, il y a des frustrations sur le temps libre, sur la dictature de la communication, sur... L'être humain, il a besoin d'autre chose, en fait. Il a besoin de spiritualité, il a besoin de temps libre, il a besoin de travailler, bien entendu, parce que le travail est important pour l'équilibre, mais aussi d'avoir du temps pour se nourrir, du temps de qualité à passer avec les gens qu'on aime. Tout est grignoté, de toute façon, petit à petit, comme ça, et on est vraiment pressurisé.
On s'est bouffé.
Je crois que c'est cette frustration aussi associée à des... problèmes qui sont des problèmes matériels, de difficultés à vivre. Tout coûte beaucoup plus cher, il y a beaucoup plus de besoins. Je ne sais pas, quand j'étais ado, par exemple, il n'y avait pas de téléphone, pas d'ordinateur. On changeait de fringue une fois tous les 10 ans. Enfin,
aujourd'hui, tout va vite et effectivement, on est pressurisé.
On consomme partout. Beaucoup, puis on est dans une espèce de frénésie de consommation qui fait qu'on a besoin de cet argent.
On est piégé ?
On n'est jamais piégé, on peut toujours choisir. On peut toujours sauter du train... en route.
Et donc, on choisit un peu plus de spiritualité, on prend le temps.
C'est important si on veut avoir un peu de recul sur sa propre vie et puis la traverser le mieux possible. Enfin, je ne donne pas de leçons, là, j'en ai aucune à donner. Hein. Mais...
En 2007, sort l'album L'Invitation Téléportation. Nous sommes à Londres, dans les studios d'Abbey Road. Vous enregistrez votre 10e album, Les chansons de l'innocence retrouvée. Comment on retrouve l'innocence qu'on perd avec l'âge et est-ce qu'on peut vraiment la retrouver ?
Mais je ne l'ai jamais perdue.
Vous avez de la chance. Hein, quand on devient adulte, on la perd un peu quand même.
Je ne sais pas, non. Je pense que c'est quelque chose qui fait partie de la lumière qu'on a en soi. Puis en plus, c'est vraiment une belle chose, je trouve, l'innocence. On la retrouve chez tout le monde. Je sais pas, enfin, il suffit de sourire à quelqu'un dans la rue, il vous rend votre sourire. Et ça change sa journée, ça change la vôtre.
Vous souriez beaucoup ?
Ouais.
Non, mais c'est vrai que c'est sur des petits détails aussi, finalement, qu'il faut s'attarder parfois. Sur des petites choses qui font du bien.
C'est des petites choses d'importance.
Étienne Dao, après les chansons de l'innocence retrouvée, Blitz sort en 2017 avec ce titre.
Dans la chambre à coups, tout tiré. Apprendre à danser sans tomber, la corde est tendue sous nos pieds, battant l'air dans...
Chambre 29, hommage à Syd Barrett des Pink Floyd, c'est un truc de fou. Parce qu'au moment où j'ai écouté ce titre pour préparer l'émission, je reçois un mail d'une attachée de presse pour les 50 ans de l'album de The Dark Side of the Moon des Pink Floyd. Et je me suis dit, tiens, c'est un signe, pile au moment où j'écoute ce titre. Mais ça me permettait de vous demander si justement, vous croyez aux signes et si vous y faites gaffe au quotidien.
Toujours. Ouais. Il faut être très sensible aux signes. La vie vous envoie vraiment des clins d'œil en permanence. Quand on se force à les voir, d'abord la vie devient un plus grand jeu. Et puis, rien n'est dû au hasard, en fait. C'est très étrange, enfin, peut-être que c'est mon grand âge maintenant qui me fait avoir ce genre de grandes phrases quasi définitives. Mais je crois que les signes sont toujours là pour vous envoyer vraiment des... Ça vous envoie des signaux.
Et ce serait qui nous enverrait ces signaux-là ?
Est-ce que c'est vous-même ? Peut-être que c'est son intuition profonde qui tout d'un coup clignote et...
Et donc vous suivez ces signes, cette intuition ?
Toujours.
Systématiquement.
C'est la seule intelligence. Je suis toujours mon intuition. Si vraiment, il m'arrive d'être un peu perdu, parce que des fois, on n'a pas le pif parce qu'on est fatigué, ou que tout d'un coup, on a beaucoup moins d'acuité comme ça. Si je commence à demander des avis à droite et à gauche, je suis foutu. Je fais des conneries.
Chambre 29, hommage à Syd Barrett. Le Jardin aussi sur cet album, hommage à votre sœur disparue en 2016. La mort est très présente sur Blitz. Vous dites « Je crois qu'on ne meurt pas. Quand le corps n'est plus là, on continue de vivre à travers les autres. »
On vit pour les autres, on vit pour ceux qui ne sont plus là. Mais je pense que la communication ne s'arrête pas quand quelqu'un s'en va. Parfois même avec des personnes avec lesquelles on a eu des complexités relationnelles, le fait qu'elles soient parties fait que ça simplifie les choses. Moi, je me sens vraiment très en relation avec des personnes qui sont parties. Et j'ai perdu beaucoup de gens depuis quelques années, beaucoup d'amis proches. Enfin, on ne s'habitue pas, hein, on s'habitue pas au départ. Moi, je suis vraiment dans le déni. Pour moi, les gens sont toujours vivants.
Par la mémoire, en fait, le fait d'y penser.
Oui, ils vivent à travers vous, en fait. Quand on est artiste, il y a la voix, les images, il y a tout ça qui fait que, en fait, la mort n'existe pas.
Du coup, ça veut dire que vous ne flippez pas de la mort ?
La mort ne me fait pas peur. J'aurais peur d'être malade, par exemple. Le corps qui ne vous permet plus de faire ce que vous devez faire, ouais, ça, c'est une angoisse, mais c'est vraiment une angoisse pour tout le monde.
Ouais.
Tout le monde a peur de ça. Tout le monde a envie que sa bécane, son véhicule, soit optimal tout le temps pour faire plein de choses, tout le temps. Dormir 3 heures et faire plein de choses géniales. Et, et avoir toujours l'œil vif et le teint frais.
Et la voix aussi, et tout ça aussi, j'imagine, pour un artiste.
Oui,
c'est
tout,
jusqu'au bout, quoi. On chante jusqu'au bout, quoi.
On chante jusqu'au bout, vraiment. Enfin, il y a quelqu'un qui est de très aimable qui m'a demandé si je comptais prendre ma retraite.
C'est sympa, ça fait plaisir.
Très sympa, oui. Et parce qu'en fait, comme le dernier album parle d'une histoire d'amour, en fait, tout le monde avait l'air de tomber de sa chaise, qu'on puisse tomber encore amoureux. Enfin, évidemment et heureusement, pour avoir côtoyé Jeanne Moreau, par exemple, avec qui j'ai fait un album et avec laquelle j'ai beaucoup discuté du désir. C'était vraiment... Et donc, elle était... beaucoup plus âgé que moi, bien sûr. Et j'étais très intéressé de savoir ce que devient le désir. Parce que c'est une inquiétude. Qu'est-ce que ça devient ? Comment il se transforme ? Et donc, on avait des longues conversations là-dessus qui étaient assez, assez deep.
Non, mais c'est un truc de fou, parce que ça veut dire qu'à partir d'un certain âge, on ne peut plus parler du désir, de l'amour. C'est plus envisageable dans la société. Enfin, je ne sais pas, c'est...
Oui, c'est dingue.
Ça nous tombe dessus à n'importe quel âge.
Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on est artiste, on s'arrête quand il y a des signes de faiblesse dans le désir des autres et de son propre désir, bien sûr. Pas se faire larguer, hein. Et puis aussi d'avoir toujours une bonne inspiration. Et je me suis fait défoncer après, c'est genre comme si tout d'un coup, enfin, on était en plein dans le truc de la réforme des retraites.
Mais c'est pour ça, je pense, la question. Je pense que c'était pour ça.
Donc c'était assez brutal d'ailleurs, enfin, ça n'avait rien à voir. Enfin, un artiste ne s'arrête pas.
Téléportation, on part en 2020. 16 mars 2020, on allume la télé.
Dès demain, midi. Et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ses contacts au-delà du foyer.
Emmanuel Macron, son allocution pour le confinement.
On dirait vraiment un mauvais film.
C'est flippant.
C'est tout près, c'est tout près. Ça a l'air d'être très lointain en même temps. On a tout à fait oublié cette période. Mais tout le monde a suivi, c'était dingue, il n'y avait personne dans la rue, il n'y avait personne dans Paris. C'était magnifique d'ailleurs, il y avait tous ces chants d'oiseaux, il y avait des bons côtés quand même. Hein.
Vous êtes sorti un peu dans Paris pendant le confinement,
oui.
Justement, c'était impressionnant. Hein.
C'était super beau d'avoir Paris pour soi, et puis c'était un moment où je sortais deux tournées consécutives, j'étais rincé, donc j'ai rangé chez moi, personne me fout la pression. J'ai filé tous mes fringues de scène au musée Galliera, enfin, je me suis occupé en fait, j'ai fait plein de choses que je n'avais jamais eu le temps de faire. J'ai écrit une chanson qui s'appelait Virus X, qui était la première chanson de l'album.
Etienne Dao, c'est super bien parce que vous faites la fin de l'émission pour moi.
Ah bon ?
C'est exactement ce que j'avais prévu de dire. Effectivement, ce confinement, vous en profitez, vous lisez, vous rangez, vous filez vos costumes de scène au musée de la mode à Paris. Vous dites que vos costumes, ce sont des armures. Des armures pour vous protéger de quoi ?
Non, c'est un vêtement dans lequel on rentre pour pouvoir supporter d'être regardé. Quand je vais me retrouver devant 10 000 personnes à Bercy, le fait d'être regardé... dans l'absolu, est absurde. Il faut que la tête fasse ce petit clic comme ça pour pouvoir accepter d'être celui qu'on regarde. Et pour ça, je me prépare longtemps dans ma loge. C'est se mettre dans une bulle qui va vous permettre de faire cette rencontre suprême avec les autres, avec ceux qui ont acheté leur billet peut-être il y a un an, qui sont venus avec leur meuf ou leur mec, enfin, qui sont venus avec quelqu'un qu'ils aiment, avec leurs amis, avec leur famille. Enfin, voilà, tout ça, se dire qu'on va se retrouver.
Ça veut dire que, par exemple, là, comme vous êtes là aujourd'hui...
C'est pas une armure pour se protéger. C'est un vêtement dans lequel on rentre pour devenir celui qui va se montrer. Je suis obligé de, mentalement de faire cette transformation. Parce que c'est pas du tout le fond de ma nature. Moi, je suis pas du tout quelqu'un qui monte sur la table pour chanter, hein.
Ah bon?
Non.
Bon, bah on dirait pourtant.
non, mais c'est pas ça. Enfin, c'est pas ça. Je ne suis pas cette personne-là, je ne le serai jamais.
Et vous auriez voulu l'être ou pas, parfois?
On n'est que ce qu'on est, et puis on
oui,
s'habitue.
Oui, mais c'est fataliste de dire ça.
Non, pas du tout, parce que je vis bien avec moi, je suis ami avec moi. Mais j'envie parfois des gens pour qui aller faire une télé, ou aller se montrer, ou parler de soi, c'est un truc... normal, naturel.
Vous, c'est dur, par exemple, là, quand vous êtes en interview, quand il y a de la promo à faire.
Avec vous, c'est pas du tout difficile.
Ah, je vous remercie. non, mais sérieusement, ça non, peut non, être mais... quelque chose de...
Non, non, mais comme ça, à deux, c'est super. Mmh. Après, faire une télé live, par exemple, ça, c'est vraiment le max de mon angoisse. Parce que je sais que je sais pas le faire, donc je me dis, je serai pas bon, et voilà, comme j'anticipe que je me dis que je serai pas bon, ça m'angoisse, donc je suis pas bon.
Les costumes sont importants, les pochettes de disques aussi, l'esthétique pour vous c'est hyper, hyper important. Comment vous définissez le beau ?
C'est quelque chose qui flatte l'œil, qui vous rend heureux, le beau.
La beauté d'un homme, d'une femme, par exemple, ça passe par quoi ?
Par l'assurance. je suis très séduit par les gens qui ont une forme d'assurance, pas les gens qui se la pètent,
ouais.
Qui sont à l'aise, confortables avec ce qu'ils sont. C'est très séduisant.
Et la beauté face au temps ?
Moi, je trouve qu'il y a des gens qui sont très beaux, qui ont de l'âge et qui sont magnifiques.
On dit
évidemment,
qu'il
y a on aimerait
temps.
Toujours avoir la silhouette de 20 ans, la peau de 20 ans, etc. Mais savoir regarder la beauté après un certain âge aussi, c'est important. Parce que c'est une fatalité. L'enveloppe bouge, voilà. On change, hein. C'est comme ça. Au-delà de certaines choses un peu esthétiques, c'est garder une forme de légèreté. C'est très important quand on prend de la bouteille.
Ah, vous n'avez pas dit prendre de l'âge, hein.
Ou de l'âge, si vous voulez, c'est pas... j'ai pas de
prendre de la bouteille,
ça.
C'est plus l'expérience, on va dire. C'est
mais on en prend avec aussi.
Ouais, c'est ça.
Moi, l'âge me dérange pas du tout. Enfin, mon âge ne me dérange pas du tout. J'ai aucun problème avec ça. Je me sens bien avec mon âge, je vis comme un jeune homme.
C'est vrai. Non, sérieux.
Non, mais c'est vrai, parce que je suis porté aussi par la musique et par ma passion. Donc, j'ai pas du tout l'impression que les années passent. Ça n'existe pas pour moi.
Dans le rétro sur France Bleu, Déborah Grunewald.
Sur votre album Tirer la nuit sur les étoiles, on l'évoquait il y a un instant, il y a Virus. Ah non, je voulais le faire avec l'accent anglais. C'est soit Virus X, mais tout à l'heure, vous m'avez dit Virus X.
Oui, voilà. Que les gens comprennent d'ailleurs Various, comme
various,
varié.
Comme le variant et varié.
Oui, Various Sex.
Ah bah, ouais, Various Sex, c'est pour ça. Une chanson que vous avez faite pendant la pandémie. Vous riez toujours.
Elle est drôle, cette chanson.
Bah ouais.
Ouais, elle est drôle.
Double sens, vous y évoquez le virus, mais aussi les relations toxiques. Uh-huh. De façon humoristique, vous parlez souvent dans vos chansons de toxicité, de poison, de fêlure, de danger. Il y a comme une fascination.
Je suis fasciné par l'intensité dans la relation, en fait. Et l'intensité, elle passe par tout ça, je crois. Pas du tout par l'apaisement. Et ça me fait écrire.
L'émission se termine, Étienne Daho, avec votre titre « Roman inachevé ». Alors, pour découvrir les paroles, c'est sur l'album d'Étienne Daho. Et voici les mots de William Burroughs, un écrivain que vous appréciez. « Nous savons maintenant que rêver est une nécessité biologique. Je pense que c'est ce que font les artistes. Ils rêvent pour les autres. »
Ouais, ils souffrent aussi pour les autres. C'est pour ça qu'ils sont payés.
Parce que c'est aussi une souffrance ?
Non, parce qu'en fait, on s'aperçoit quand on passe soi-même de l'état d'auditeur, que je continue d'être, de la musique des autres. Quand on devient soi-même un artiste, on devient une voix pour les autres. On parle aux gens qui vont se reconnaître dans ce que vous ressentez. Donc comment vous vivez les choses, comment vous traversez votre vie. Donc on devient une voix pour les autres. C'est ça que je retiens de ça.
Ça veut dire qu'il faut aussi souffrir pour pouvoir parler aux autres.
Pour parler mieux, oui. Parce que l'expérience aussi permet de pas écrire n'importe quoi. Enfin, quand on a une audience comme ça qui est large et qu'on a envie d'écrire les meilleures chansons du monde et qu'elles aient un sens, même si parfois le sens est masqué par la légèreté apparente, il faut toujours qu'il y ait cette chose qui crée un contact, un petit lien où on se dit « cette chanson, c'est moi ». Enfin, ça parle de moi, de ma vie, ça me dorlote, ça me rassure, elle est pour moi, c'est moi.
Merci Étienne Dao.
Merci beaucoup. À vous.
Tirer la nuit sur les étoiles, c'est une parenthèse magique et enchantée, un monde électrique et enflammé. L'album est dispo, il y a la tournée aussi à ne pas rater. Première date au Zénith de Caen le 4 novembre, des dates à Nantes, Bordeaux, Nancy, Lille, Reims, Rouen, Rennes. On vous mettra tout ça sur la page de l'émission Dans le Rétro, 22 décembre à l'Accor Arena à Paris. Merci à Nathalie Scholtes du label Barclay qui nous ramène toujours des super invités. C'était important de le dire. Cette émission, toutes les autres, c'est sur l'appli ICI, sur francebleu.fr et sur toutes les plateformes habituelles. Prenez soin de vous. Salut.
À bientôt.